mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans Big Books en ce 30e jour de guerre sur Gaza, Israël. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous enregistrer un épisode de Big Books extrait des Frères Karamazov de Fiodor Dostoïevski. Alors, pourquoi ? Quel rapport, vous allez me dire, avec la guerre à Gaza ? Eh bien, j'ai le souvenir d'un passage dans les Frères Karamazov où justement il parle de ça. Et c'est ce passage que j'ai envie de vous lire, c'est un chapitre qui est juste avant le Grand Inquisiteur, chapitre très connu des Frères Karamazov. Et ce chapitre s'appelle « Rébellion ». C'est une discussion entre les deux frères, Ivan et Alyosha. Je commence, et peut-être on trouvera le rapport au fur et à mesure. Rébellion. Il faut que je te fasse un aveu, commença Ivan. Jamais je n'ai réussi à comprendre comment on pouvait aimer ses prochains. Je veux dire, c'est justement les prochains, à mon avis, qu'il est impossible d'aimer. On ne peut aimer que les lointains. J'ai lu, je ne sais plus quand, je ne sais plus où, à propos de Johann le Miséricordieux, un saint, qu'il y avait un passant affamé et transi qui était entré chez lui et lui avait demandé de le réchauffer. Lui, il l'avait couché avec lui dans son lit et il s'était mis à lui souffler dans la bouche, qui était purulente et qui puait de je ne sais quelle maladie affreuse. Je suis sûre que ça, il l'a fait dans une sorte de mensonge hystérique par un amour dicté par le devoir, par un esprit de pénitence qu'il s'était mis sur les épaules. Pour aimer un homme, il faut que cet homme se cache. Mais dès qu'il montre son visage, l'amour a disparu. Ça, le starets Zosima en a parlé souvent, remarqua Alyosha. Il disait aussi que souvent le visage de l'homme était un obstacle à l'amour de ceux qui manquent d'expérience de l'amour. Mais il y a beaucoup d'amour dans l'humanité. Et un amour presque pareil à celui du Christ, ça, je le sais, Ivan. Eh bien, moi, pour l'instant, je ne le sais pas. Et je ne peux pas le comprendre. Et une multitude infinie de gens avec moi. La question, n'est-ce pas ? Elle est de savoir si ça provient des défauts des humains ou bien du fait que c'est là leur nature. À mon avis, l'amour du Christ pour les gens est, dans son genre, un miracle impossible sur Terre. C'est vrai, il était Dieu, mais nous ne sommes pas des dieux. Mettons que moi, par exemple, je puisse souffrir profondément, mais l'autre, n'est-ce pas, il ne pourra jamais savoir jusqu'à quel point je souffre, parce qu'il est un autre et pas moi, et qu'en plus c'est rare quand quelqu'un accepte de reconnaître l'autre comme un être qui souffre, comme si c'était un rang social. Et pourquoi il n'accepte pas, d'après toi ? Parce que, par exemple, je sens mauvais, que j'ai un visage bête, parce que je lui ai marché sur le pied je ne sais plus quand. De plus, il y a souffrance et souffrance. Il y a une souffrance avilissante qui m'avilit, la faim par exemple. Mon bienfaiteur me la concédera encore, mais dès que la souffrance est un petit peu plus haute, la souffrance pour une idée par exemple, non, les cas où il pourra la concéder seront très rares. Parce que, par exemple, il me lancera un coup d'œil et d'un seul coup il verra que je n'ai pas du tout le visage que devrait avoir selon sa fantaisie un homme qui souffre, par exemple pour telle ou telle idée. Et donc, il me prive tout de suite de ses bienfaits, et pas du tout par méchanceté de cœur, les mendiants. Surtout les mendiants nobles, ne devraient jamais se montrer à l'extérieur mais toujours demander l'aumône par le biais du journal. Dans l'abstrait, on peut encore aimer son prochain, et même parfois de loin, mais de près presque jamais. Si tout se passait comme sur une scène au ballet où les mendiants, quand ils paraissent, passent dans des loques de soie et des dentelles trouées et demandent l'aumône en dansant gracieusement, bon, là, on pourrait les admirer. Les admirer, mais malgré tout, pas les aimer. Mais assez sur ce sujet-là, j'avais juste besoin de te placer sur mon terrain. Je voulais te parler des souffrances de l'humanité en général, mais arrêtons-nous plutôt seulement sur les souffrances des enfants. Ça restreindra les dimensions de mon argumentation d'une bonne dizaine de fois. C'est d'autant moins à mon avantage, ça va de soi. Mais d'abord, les petits-enfants, on peut les aimer même de près, même quand ils sont sales, même ceux qui ont un visage laid. Mais je crois d'ailleurs que les enfants ne peuvent pas avoir un visage laid. Ensuite, si je ne parle pas des grands, ce n'est pas seulement parce qu'ils sont dégoûtants et qu'ils ne méritent pas l'amour, mais c'est aussi qu'ils possèdent la vengeance. Ils ont mangé la pomme, ils ont connu le bien et le mal, et ils sont devenus comme des dieux. Et la pomme, ils continuent toujours de la manger. Mais les petits-enfants, eux, ils n'ont rien mangé du tout. Et pour l'instant, ils ne sont encore coupables de rien. Tu les aimes, les petits-enfants, Alyosha ? Je sais que tu les aimes. Et tu comprendras pourquoi ce n'est que d'eux que je veux parler en ce moment. Si eux aussi, ils souffrent terriblement sur Terre, eh bien, c'est évidemment pour leur père. Ils sont punis pour leur père qui ont mangé la pomme. Mais ça, c'est un raisonnement d'un autre monde que le cœur de l'homme ici sur Terre est incapable de comprendre. Un innocent ne doit pas souffrir pour un autre. Et qui plus est, un innocent comme lui. Tu peux t'étonner de moi, Alyosha. Moi aussi, c'est affreux ce que j'aime les petits-enfants. Et remarque ça, les gens cruels, les passionnés, les assoiffés de chair, les Karamazoviens, parfois ils adorent les enfants. Les enfants, tant qu'ils sont des enfants, jusqu'à 7 ans par exemple, ils sont terriblement différents des hommes. Un être complètement différent avec une autre nature. J'ai connu un bandit dans un pénitencier. Il lui était arrivé dans sa carrière, alors qu'il exterminait des familles entières dans les maisons où il s'introduisait la nuit pour les piller, d'assassiner en même temps, tant qu'à faire, des enfants. Mais enfermé dans sa prison, il les aimait tellement que c'en était étrange. Par la fenêtre de sa cellule, tout ce qu'il faisait, c'était qu'il regardait les enfants qui jouaient dans la cour de la prison. Il y a un petit garçon qu'il avait réussi à faire venir sous sa fenêtre et le petit est devenu son grand ami. Tu ne sais pas pourquoi je te dis tout ça, Alyosha ? J'ai mal à la tête. Je ne sais pas. Et je me sens triste. Ouais, premier point commun entre moi et le frère Karamazov. J'ai mal à la tête, les gars. Et je me sens triste. Tu parles avec un air étrange, remarqua Alyosha avec inquiétude. Comme si tu étais dans une espèce de folie. À propos, récemment, il y a un Bulgare qui m'a raconté à Moscou, poursuivit Ivan, comme s'il n'écoutait pas son frère, comment les Turcs et les Tcherkesses là-bas en Bulgarie font régner la terreur. Parce qu'ils craignent un soulèvement général de tous les Slaves, c'est-à-dire qu'ils brûlent. Ils tailladent, ils violent les femmes et les enfants, ils clouent les prisonniers par les oreilles aux palissades avec des clous et ils les laissent comme ça, jusqu'au matin, et au matin, ils les pendent. On ne peut même pas tout imaginer. En fait, quand on parle de la cruauté bestiale de l'homme, c'est une injustice terrible et blessante pour les animaux. Un animal ne pourra jamais être aussi cruel qu'un homme, cruel avec un tel sens artistique, un tel art. Le tigre dévore, déchiquette tout simplement, il ne sait rien faire d'autre. Il ne lui viendra jamais à l'idée, à lui, de clouer les gens avec des clous par les oreilles pour la nuit, quand bien même il aurait la possibilité de le faire. C'est turc, d'ailleurs. C'est avec jouissance qu'ils torturaient aussi les enfants, en commençant par les arracher au poignard du ventre de leur mère, ensuite de quoi ils jettent en l'air des nourrissons et les rattrapent sur des baïonnettes sous les yeux de leur mère. C'est sous les yeux de leur mère qu'ils faisaient la volupté principale. Mais voilà. Moi, figure-toi qu'il y a un tableau qui m'a intéressé tout spécialement. Représente-toi ça. Un nourrisson dans les bras de sa mère tremblante autour des Turcs qui viennent de faire irruption. Ils ont imaginé un petit jeu amusant. Ils caressent l'enfant, ils rient pour le faire rire, ils y arrivent. Le bébé se met à rire. À cet instant, un Turc sort son pistolet et le vise à 20 cm de distance de son visage. Le gamin continue de rire joyeusement. Il tend ses petites mains pour saisir le pistolet et brusquement, l'artiste appuie sur la détente en plein dans son visage et lui fracasse la tête. Artistique, n'est-ce pas ? Les Turcs, à propos, il paraît qu'ils aiment beaucoup les douceurs. Frère, à quoi bon tout ça ? Demande Alyosha. Je pense que si le diable n'existe pas, et donc, s'il a été créé par l'homme, l'homme l'a créé à son image et à sa semblance. Dans ce cas-là, Dieu aussi. C'est étonnant comme tu sais retourner les mots, comme dit Polonius dans Hamlet, fit Ivan se mettant à rire. Tu m'attrapes sur un mot, bon, ça me fait plaisir. N'empêche, il est joli ton Dieu, s'il a créé l'homme à son image et à sa semblance. Tu viens de me demander à quoi bon je te disais tout ça ? Je suis un amateur, vois-tu, je collectionne certains faits, et tu me croiras ? Je les note et je les rassemble en les prenant dans les journaux ou des récits, n'importe où, des petites anecdotes d'un certain genre, j'en ai déjà une bonne collection. Les Turcs, bien sûr, ils sont entrés dans la collection. Mais ça, bon, ce sont des étrangers. J'ai aussi des petites choses nationales et qui valent largement les Turcs. Chez nous, cloués par les oreilles, c'est impensable. Nous sommes quand même européens, mais les verges, mais le fouet, ça, c'est quelque chose qui est à nous et qu'on ne peut pas nous enlever. À l'étranger, apparemment, maintenant, ils ne fouettent plus du tout. Les mœurs ou quoi, qui se sont purifiées, ou des lois qui se sont établies comme quoi, à ce qu'on dit, l'homme n'a plus du tout le droit de fouetter un autre homme. Mais ils se sont dédommagés par autre chose, là encore, de purement national, comme chez nous. Et même de tellement national que chez nous, je crois que c'est impossible. Même si j'ai l'impression que ça commence à se greffer. Surtout depuis le début du mouvement national dans la frange supérieure de notre société. Je possède une brochure absolument charmante, traduite du français, sur l'exécution à Genève tout récemment, il y a juste 5 ans, d'un monstre et d'un assassin. Richard, un gars, je crois, de 23 ans, qui s'était repenti et s'était converti à la foi chrétienne juste avant l'échafaud. Ce Richard était le bâtard de je ne sais qui que ses parents encore tout bébé avaient offert à des bergers de la montagne suisse et eux, ils l'avaient élevé pour l'utiliser au travail. Il avait grandi chez eux comme un petit animal sauvage. Les bergers ne lui avaient rien appris, au contraire. Depuis l'âge de 7 ans, ils l'envoyaient garder les bêtes sous la pluie et le froid, presque tout nu et quasiment sans le nourrir. Et bien sûr, en faisant ça, personne d'entre eux ne réfléchissait ou ne se repentait. Au contraire, ils se considéraient dans leur plein droit parce que Richard leur avait été offert comme un objet et ils ne trouvaient même pas nécessaire de le nourrir. Richard lui-même témoigne que pendant ces années-là, il était comme le fils prodigue de l'Évangile. Il avait un désir terrible de manger la pitance qu'il donnait aux cochons, qu'ils engraissaient pour la vente, mais lui, même ça, on le lui refusait, on le battait quand il en volait aux cochons. Et c'est comme ça qu'il a passé toute son enfance et son adolescence jusqu'au moment où il est devenu grand. Et avec toutes ses forces, il s'est mis à voler à son tour. Le sauvage s'est mis à gagner sa vie comme journalier à Genève. Ce qu'il gagnait, il le buvait. Il vivait comme un monstre et pour finir, il a tué un vieillard et il l'a détroussé. On l'a arrêté, jugé et condamné à mort. Là-bas, ils ne font pas dans le sentimentalisme. Et là, en prison, le voilà tout de suite entouré par des pasteurs et des membres de toutes sortes de confréries christiques, de dames patronesses, etc. En prison, ces gens-là lui apprennent à lire, à écrire. Ils se mettent à lui expliquer l'évangile, ils lui donnent des remords, le persuadent, le persécutent, ils l'obsèdent, ils lui bourrent le crâne et voilà que c'est de lui-même solennellement qu'il reconnaît son crime. Il se convertit. Il écrit de son propre chef au tribunal qu'il est un monstre et que voilà, finalement, il a eu cet honneur d'avoir été lui aussi illuminé par le Seigneur et d'avoir reçu sa grâce. Tout s'est mis à bouillir à Genève. Tout ce qu'il y a à Genève de bien-pensant et de charitable, tout ce qu'il y avait de plus huppé et de mieux éduqué s'est rué vers lui dans sa prison. On embrasse Richard, on le serre dans ses bras, tu es notre frère, la grâce de Dieu est descendue sur toi. Et Richard lui-même, il n'arrête pas de pleurer, pris comme il est dans l'émotion. Oui, la grâce est descendue sur moi. Avant, pendant toute mon enfance, toute mon adolescence, j'étais heureux d'avoir la pitance des cochons. Et maintenant que la grâce est descendue sur moi, je meurs dans le Seigneur. Oui, oui, Richard, meurs dans le Seigneur. Tu as versé le sang et tu dois mourir dans le Seigneur. Tu es certes innocent de ne pas du tout avoir connu le Seigneur quand tu enviais la pitance des cochons et quand on te battait parce que tu leur volais cette pitance, ce qui n'était pas du tout bien de ta part parce que c'est mal de voler, mais tu as versé le sang et tu dois mourir. Et voilà qu'arrive le dernier jour. Richard, bouleversé, pleure et ne fait rien que répéter à tout instant « C'est le plus beau jour de ma vie, je vais chez le Seigneur ». Oui, crient les pasteurs, les juges et les dames patronesses, c'est ton jour le plus beau car tu vas chez le Seigneur. Tout ça avance vers l'échafaud, derrière la charrette d'infamie dans laquelle on conduit Richard en équipage à pied. On arrive à l'échafaud. « Meurs, notre frère, crie-t-on à Richard, meurs dans le Seigneur, car toi aussi tu as été touché par la grâce. » Et donc, tout couvert des baisers de ses frères, le frère Richard est traîné sur l'échafaud. On l'allonge sur la guillotine et fraternellement on finit par le raccourcir parce que la grâce est descendue sur lui. Non, c'est caractéristique. La brochure a été traduite en russe par je ne sais quel bienfaiteur luthérien russe de la haute société et distribuée pour l'édification du peuple russe gratuitement aux journaux et à toutes sortes d'éditions. Le truc avec Richard est bien en ce qu'il est national. Chez nous, c'est peut-être inepte de couper la tête à notre frère simplement parce qu'il est devenu notre frère et que la grâce est descendue sur lui. Mais je le répète, nous, nous avons nos trucs à nous et ce n'est presque pas pire. Chez nous, il y a une jouissance historique immédiate évidente de la torture par les coups. Il y a un poème chez Nekrassov sur un paysan qui fouette son cheval à coups de fouet dans les yeux sur ses yeux doux. Qui de nous n'a pas vu ça? C'est de la russité. Il décrit le petit cheval sans force qui doit tirer une charge beaucoup trop lourde pour lui et qui s'est enlisé avec et ne peut plus s'en sortir. Le paysan le bat. Il le bat avec frénésie, il finit par le battre sans comprendre ce qu'il fait. Dans l'ivresse de ses coups, il le fouette, il veut lui faire mal, il ne compte plus. Même si t'as pas la force, tire quand même, crève mais tire. La petite rosse se débat et voilà qu'il se met à la fouetter, elle, sans défense, sur ses yeux doux, pleins de larmes. Elle, dans un état second, par un dernier sursaut, elle arrive à sortir, et la voilà qui avance, tremblant de tout le corps, le souffle lourd comme un peu de biais, une sorte de démarche comme sautillante, comme contre-nature, quelque chose de honteux. Chez Nekrassov, c'est terrifiant. Mais ça, n'est-ce pas? Ce n'est rien qu'un cheval. Les chevaux, c'est Dieu lui-même qui les a créés pour qu'on les fouette. C'est ce que les Tatars nous ont expliqué en nous laissant le knout en souvenir. Mais les gens aussi, on peut les fouetter. Voilà par exemple un monsieur parfaitement éduqué et sa dame qui fouettent leur propre fille, une enfant de 7 ans. À coups de verge, tout ça je l'ai noté en détail. Le papa il est tout content que les verges elles aient des nœuds, ça marquera plus, dit-il. Et le voilà qui commence à marquer sa propre fille. Je sais positivement qu'il y a des fouetteurs qui s'échauffent à chaque coup jusqu'à la jouissance, jusqu'à une jouissance physique, et à chaque coup, en plus, toujours plus fort, graduellement. Ils fouettent pendant 1 minute, ils fouettent enfin pendant 5 minutes, puis 10, plus ça dure, plus c'est fort, plus c'est pressé, plus ça marque. L'enfant crie, l'enfant finit par ne plus pouvoir crier, il halète. Papa, papa, mon petit papa, mon petit papa. L'affaire, par une espèce de hasard malséant, atterrit au tribunal. On engage un avocat. Le peuple russe, ça fait longtemps qu'il a donné un surnom à l'avocat. Avocat, conscience à vendre. L'avocat crie en défense de son client. L'affaire, n'est-ce pas, elle est si simple, une affaire de famille banale. Un père corrige un peu sa fille et voilà, pour la honte de nos jours, ça en arrive au tribunal. Les jurés convaincus se retirent et rendent un verdict d'acquittement. Le public est ivre de bonheur qu'on ait acquitté le tortionnaire. Ouais. Moi, je n'y étais pas, sinon j'aurais lancé la proposition de créer une rente en l'honneur du tortionnaire. Des tableaux charmants. Mais sur les enfants, j'ai encore des choses bien mieux. J'en ai rassemblé beaucoup, beaucoup sur les enfants russes. Alyosha. Une petite fille de 5 ans a été prise en haine par ses parents. Gens de fonction des plus dignes, éduqués et instruits. Vois-tu, et ça, je le répète positivement, il y a beaucoup de gens dans notre humanité qui ont cette caractéristique particulière. L'amour de torturer les enfants et rien que les enfants. Envers tous les autres sujets du genre humain, ces mêmes tortionnaires peuvent même être doux et compatissants, comme des Européens instruits et empreints d'humanité, mais ils adorent torturer les enfants. C'est même les enfants qu'ils aiment dans ce sens-là. C'est précisément le côté sans défense de ces créatures qui attire ces bourreaux. La confiance angélique de l'enfant qui n'a nulle part où aller, personne chez qui trouver refuge. C'est bien ça qui enflamme le sang dépravé du bourreau. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai choisi de vous lire ça aujourd'hui. C'est tellement pas réconfortant, mais bon. On est presque à la moitié, non plus. On est aux trois quarts du texte. Je sens qu'il va y avoir quelque chose qui va nous faire comprendre pourquoi je voulais absolument lire du Dostoïevski aujourd'hui. Nous sommes quelques jours après la fin de cette première partie et je reprends l'enregistrement aujourd'hui. On est à 35 jours de bombardement sur Gaza. Et voilà, et je voudrais continuer à répondre à la question: en quoi ai-je imaginé que lire un extrait des Frères Karamazov pourrait être réconfortant en cette époque génocidaire? Nous allons voir si nous trouvons ensemble la réponse à cette question dans la suite de ce chapitre qui s'appelle « Révolte ». Dans chaque homme, bien sûr, il y a un fauve qui se cache. Un fauve de haine, un fauve de cet embrasement sensuel qui vient des cris de la victime torturée, un fauve sans frein libéré de sa chaîne, un fauve des maladies qu'on se gagne dans la débauche, la goutte, le foie malade, etc. Cette pauvre petite fille de 5 ans, ses parents éduqués la soumettaient à toutes les tortures imaginables. Ils la battaient, ils la fouettaient, ils lui donnaient des coups de pied, eux-mêmes sans savoir pourquoi, ils couvraient tout son corps de bleu. À la fin, ils étaient arrivés à des raffinements scientifiques dans le froid, dans le gel, ils l'enfermaient toute la nuit aux toilettes, et parce qu'elle ne demandait pas la nuit, comme si un enfant de 5 ans qui dort d'un sommeil profond et angélique peut apprendre à demander à cet âge-là, ils lui enduisaient le visage de ses propres excréments, et ses excréments, ils l'obligeaient à les manger. Et c'est la mère qui l'obligeait. Et cette mère arrivait à dormir quand la nuit on entendait les gémissements de la petite fille enfermée dans cet endroit sordide. Tu comprends ça, toi ? Quand un petit être qui ne sait même pas encore donner un sens à ce qui lui arrive frappe dans cet endroit sordide dans le noir et le froid, de ses petits poings minuscules, sa poitrine épuisée, et qu'en pleurant de ses petites larmes sanglantes, sans colère, douces, elle demande à son petit Jésus de la défendre. Tu comprends ce galimatia, toi, mon ami et mon frère ? Pourquoi il a été créé, ce galimatia, et à quoi il sert ? Sans lui, on nous dit, pas un homme sur terre ne pourrait vivre, car il ne pourrait pas avoir connu le bien et le mal. Mais à quoi bon les connaître, ce bien et ce mal du diable, s'ils coûtent si cher ? Mais le monde de la connaissance tout entier ne vaut pas ces larmes de petit enfant vers le petit Jésus. Je ne parle pas des souffrances des grands. Eux, ils ont mangé la pomme, qu'ils aillent au diable et que le diable les prenne. Mais eux. Je te torture, Alyoshka. Tu n'es comme plus toi-même. J'arrête si tu veux. Non, moi aussi, je veux me torturer, marmonna Alyosha. C'est peut-être ça, c'est peut-être la réponse. Peut-être que moi aussi, je veux me torturer. Ça, c'est moi qui parle, hein, c'est pas Alyosha. Ivan reprend. Un seul, juste un seul dernier tableau. Et plutôt par curiosité, il est vraiment trop caractéristique et surtout, je viens de le lire dans un de nos recueils d'antiquités, les archives ou l'ancien temps. Il faudrait retrouver, je ne sais plus, j'ai même oublié où je l'ai lu. Ça se passait à l'époque la plus sombre du servage, encore au début du siècle. Et vive le libérateur du peuple! Il y avait à ce moment-là, au début du siècle, un général au bras très long et un propriétaire foncier richissime. Mais de ceux qui, et déjà à l'époque, je crois, ils n'étaient pas nombreux, quand ils quittaient le service pour prendre leur retraite, étaient quasiment persuadés qu'ils avaient gagné le droit de vie et de mort sur leurs subordonnés. Des gens comme ça, il y en avait. Donc il vivait, ce général, sur son domaine de 2000 âmes. Il fanfaronne, il traite ses voisins comme des pique-assiettes et des bouffons. Un chenil avec des centaines de chiens et presque une centaine de piqueurs, tous en uniforme à cheval. Et voilà un petit domestique, un petit garçon d'à peine 8 ans qui un jour lance une pierre en jouant et qui blesse à la patte le chien préféré de son maître. « Pourquoi est-ce qu'il boite, mon chien préféré ?» On lui rapporte que, voilà, n'est-ce pas, ce petit garçon lui a envoyé une pierre et lui a blessé la patte. « Ah, c'est toi ?» fait le général en le regardant, qu'on le saisisse. On le saisit, on le prend à sa mère, il passe toute la nuit au cachot. Le matin, à l'aube, le général en grand apparat va chasser, enfourche son cheval autour de lui, ses piques-assiettes, les chiens, les piqueurs, les maîtres-chiens, tous à cheval. Autour, on a rassemblé tous les domestiques pour leur faire la leçon. Et devant tout le monde, la mère du petit garçon de 8 ans. On fait sortir le gamin du cachot. Un jour d'automne, sombre, froid, brumeux, un jour idéal pour la chasse. Le gamin, le général ordonne de le déshabiller. On met le gamin tout nu, il tremble, il est fou de frayeur, il n'ose pas dire un mot. « Cornet !» ordonne le général. « Cours, cours !» lui crient les piqueurs. Le gamin court. « Attrapez-le !» hurle le général et il lui lance dessus toute la meute de ses barzois. Il l'a traqué sous les yeux de sa mère. Et tous les chiens ont déchiqueté l'enfant. Le général, ça va de soi, s'est retrouvé sous tutelle. Bon, et alors, on le fusille ? Pour satisfaire le sentiment moral, on le fusille ? Parle, Alyoshka. On le fusille, dit d'une voix basse Alyosha, relevant les yeux vers son frère avec une sorte de sourire pâle, grimaçant. Bravo ! Hurla Ivan dans une espèce d'exaltation. C'est toi qui le dis, alors ? Ah, cette ermite, alors ? Alors c'est ça le petit démon que tu as dans le cœur, Alyoshka Karamazov ? J'ai dit une ineptie, mais c'est bien ça le problème, mais, criait Ivan, sache-le, novice, que ces inepties, le monde n'en a que trop besoin. Le monde ne tient que sur les inepties, et sans elles, si ça se trouve, il ne serait même rien arrivé du tout. Nous, ce que nous savons, nous le savons. Qu'est-ce que tu sais ? Je ne comprends rien, poursuit Ivan comme dans un délire. Et en ce moment, je ne veux rien comprendre, je veux rester devant le fait. Il y a longtemps que j'ai décidé de ne pas comprendre. Si je voulais comprendre quelque chose, je trahirais tout de suite le fait. Et moi, j'ai décidé de rester avec le fait. « Pourquoi tu me mets à l'épreuve ?» s'exclama Alyosha dans une espèce d'hystérie de douleur. « Est-ce que tu finiras enfin par me le dire ?»« Bien sûr que je te le dirai. C'est à ça que je veux en venir te le dire. Je tiens à toi. Je ne veux pas te manquer et je ne te céderai pas à ton zosima. » Ivan se tut un petit instant. Son visage devint soudain très triste. « Écoute-moi, j'ai pris juste les enfants pour que ce soit plus évident, les autres larmes humaines, celles dont la terre est nourrie depuis son écorce jusqu'à son centre, je n'en dis pas un mot. J'ai fait exprès de restreindre le thème. Je suis une punaise. Et je reconnais dans tout mon abaissement que je n'arrive pas du tout à comprendre pourquoi c'est organisé de cette façon. La faute, donc, elle revient aux hommes eux-mêmes. On leur avait donné le paradis, ils ont voulu la liberté, ils ont volé le feu du ciel, en sachant eux-mêmes qu'ils deviendraient malheureux. Donc il n'y a pas à les plaindre. Oh, selon mon pauvre esprit terrestre et euclidien, moi je ne sais qu'une chose, c'est-à-dire que la souffrance existe. Il n'y a pas de coupable, que tout cela s'enchaîne, tout simplement, directement, que tout cela s'écoule et s'équilibre. Mais ça, ce n'est que mon délire euclidien, ça je le sais, mais je ne peux quand même pas accepter de vivre selon ce délire-là. Qu'est-ce que ça peut me faire qu'il n'y ait pas de coupable et que je le sache ? J'ai besoin de vengeance, sinon c'est moi que je vais exterminer. Et d'une vengeance pas dans l'inconnu, je ne sais où et Dieu sait quand, mais ici, là, sur la terre, et que je la vois moi-même. J'ai cru. Je veux voir par moi-même. Et si, pour cette heure-là, je suis mort, qu'on me ressuscite. Parce que si ça arrive sans moi, ce sera trop rageant. Si j'ai souffert, ce n'est quand même pas pour que moi-même, avec mes crimes et mes souffrances, je serve de fumier à je ne sais quelle harmonie future. Je veux voir de mes propres yeux la biche se coucher à côté du lion et l'assassiné se relever pour embrasser celui qui vient de le tuer. Je veux être là quand tout le monde apprendra d'un coup. Pourquoi tout ça ? Tout ça, ça s'est passé. Toutes les religions de la terre se fondent sur ce désir et moi je crois. Mais voilà, pourtant les petits-enfants et là avec eux, qu'est-ce que je fais ? C'est une question que je suis incapable de résoudre. Je le répète pour la 100e fois. Des questions, il y en a des milliers. Mais je n'ai pris que les petits-enfants parce que là, ce qu'il faut que je dise devient d'une clarté imparable. Écoute, si tout le monde doit souffrir pour que cette souffrance achète une harmonie universelle, les enfants, eux, ils y sont pour quoi ? Dis-moi, s'il te plaît.
On ne comprend pas du tout pourquoi eux aussi ils doivent souffrir et pourquoi eux, ils doivent acheter l'harmonie par la souffrance. Pourquoi eux aussi, ils se sont retrouvés comme matière servant de fumier en eux-mêmes et à je ne sais quelle harmonie future. La solidarité des hommes dans le péché, c'est une chose que je comprends. Je comprends aussi la solidarité dans la vengeance. Mais cette solidarité dans le péché, elle ne s'étend pas tout de même jusqu'aux petits-enfants. Et si la vérité est que réellement, eux aussi, ils sont solidaires de leur père dans tous les crimes de leur père, alors évidemment, cette vérité-là n'est pas de ce monde. Et moi, elle me reste incompréhensible. Il y a peut-être un plaisantin qui pourra dire que de toute façon, l'enfant, il grandira. Et il aura le temps de pécher, mais quand même. Là, il n'avait pas grandi. Et ils l'ont déchiqueté à 8 ans avec leur chien. Oh, Alyosha, je ne suis pas en train de blasphémer. Je comprends ce que ça devrait être, le bouleversement dans la nature, quand tout au ciel et sous la terre se fondra en une seule voix de louange, et tout ce qui vivra ou ce qui aura vécu s'exclamera « Tu es juste, Seigneur, car tes voies se sont ouvertes », quand la mère elle-même embrassera le bourreau qui a fait déchiqueter son fils par ses chiens, et que tous les trois s'exclameront les larmes aux yeux « Tu es juste, Seigneur ». Là, bien sûr, ce sera le couronnement de la création et tout s'expliquera. Mais le hic, il est là. Parce que c'est ça que je suis absolument incapable d'admettre. Et tant que je suis sur la terre, je m'empresse de prendre mes mesures. Vois-tu, Alyosha, peut-être que vraiment ça arrivera comme ça. Que si je vis moi-même jusqu'à ce moment-là ou si je ressuscite pour le voir moi-même, je m'exclamerai avec les autres en regardant la mère qui embrasserait le bourreau de son fils « Tu es juste, Seigneur ». Mais je ne veux pas pousser ce cri à ce moment-là. Tant qu'il est encore temps, je m'empresse de me préserver et c'est pourquoi cette harmonie suprême, je la refuse totalement. Elle ne vaut pas une seule des larmes de cet enfant qu'on vient de martyriser. Celui qui se frappait la poitrine avec son petit poing et qui priait dans son terrier puant avec ses larmes non rachetées, son petit Jésus. Elle ne la vaut pas parce que ses larmes sont restées non rachetées. Elles doivent être rachetées, sinon l'harmonie est impossible. Mais comment peux-tu les racheter? Par le fait qu'elles seront vengées? Mais à quoi me sert la vengeance? À quoi me sert l'enfer pour les bourreaux? Qu'est-ce que l'enfer peut corriger là-dedans? Dès lors que les victimes, elles sont déjà martyrisées. Et qu'est-ce que c'est que cette harmonie s'il y a un enfer? Je veux pardonner, moi. Je veux embrasser, je ne veux plus qu'on souffre. Et si les souffrances des enfants servent à augmenter encore la somme des souffrances qui étaient indispensables pour qu'on achète la vérité, alors là, je l'affirme à l'avance, cette vérité ne vaut pas ce prix-là. Je ne veux pas. Au bout du compte, que la mère embrasse le bourreau qui a fait déchiqueter son fils par ses chiens. Elle n'a pas le droit de lui pardonner. Si elle veut qu'elle lui pardonne pour elle, la souffrance infinie qui a été la sienne. Mais la souffrance de son fils déchiqueté, elle n'a pas le droit de la pardonner. Elle n'a pas le droit de pardonner au bourreau, même si son enfant lui-même lui avait pardonné. Et si, ça c'est vrai, s'ils n'ont pas le droit de pardonner, alors où est-elle l'harmonie? Existe-t-il dans le monde entier un être qui puisse... qui ait le droit de pardonner? Je ne veux pas de l'harmonie, c'est par amour de l'humanité que je ne veux pas. Je préfère rester avec les souffrances non vengées. Mieux vaut que je reste avec mes souffrances non vengées et mon indignation insatiable, quand bien même j'aurais tort. Et on l'a estimé trop cher cette harmonie. C'est au-dessus de nos moyens de payer un droit d'entrée pareil. Et donc, moi, mon billet d'entrée, je le retourne. Et si seulement je suis un homme honnête, c'est mon devoir de le retourner le plus vite possible. C'est ce que je fais. Ce n'est pas Dieu que je n'accepte pas, Alyosha. Je lui rends juste mon billet avec tout le respect qui lui est dû. C'est une rébellion, murmura Alyosha d'une voix basse, la tête penchée. Une rébellion? Je ne voudrais pas que tu me dises ce mot-là, dit Ivan avec émotion. Peut-on vivre d'une rébellion alors que moi je veux vivre? Dis-le-moi franchement, je t'y appelle, réponds. Imagine que c'est toi-même qui mène toute cette entreprise d'édification du destin de l'humanité dans le but, au final, de faire le bonheur des hommes, de leur donner, au bout du compte, le bonheur et le repos, mais que pour cela, il serait indispensable, inévitable, de martyriser rien qu'une seule toute petite créature. Tiens, ce tout petit enfant-là qui se frappait la poitrine avec son petit poing, et de baser cette entreprise sur ses larmes non vengées. Toi, est-ce que tu accepterais d'être l'architecte dans ces conditions? Dis-le, et ne mens pas. « Non, je n'accepterai pas », répondit doucement Alyosha. « Et peux-tu admettre cette idée que les hommes pour lesquels tu bâtis puissent accepter eux-mêmes de bâtir leur bonheur sur le sang injustifié d'un petit être torturé à mort? Et s'ils l'accueillent de rester heureux dans les siècles des siècles ?»
Non, je ne peux l'admettre, frère, répondit Alyosha, les yeux soudain brillants. Tu viens de le dire. Existe-t-il sur terre un être qui puisse, qui ait le droit de tout pardonner? Mais il existe, cet être. Et il peut tout pardonner, tout et tous et pour tout, parce que lui-même, il a donné son sang innocent et pour tout et pour tous. Lui, tu l'as oublié. Or, c'est sur lui que se tient tout l'édifice et c'est à lui que ce cri s'adressera. Tu es juste, Seigneur, car tes voies se sont ouvertes. Ah, c'est le seul innocent et le sang qu'il a versé. Non, je ne l'ai pas oublié et je m'étonnais même que tu mettes tant de temps à me le citer, parce que généralement dans les débats, c'est d'abord lui que les vôtres mettent en avant. Tu sais, Alyosha, ne ris pas, mais un jour j'ai composé un poème, ça fait un an de ça. Si tu peux perdre encore une petite dizaine de minutes avec moi, je te le dirai bien. Tu as écrit un poème ? Oh non, je ne l'ai pas écrit, fit Ivan en riant. Et jamais de ma vie, je n'ai même écrit deux vers, mais ce poème, je l'ai composé et je l'ai gardé dans ma mémoire. Je l'ai composé avec feu. Et tu seras mon premier lecteur, c'est-à-dire mon auditeur. C'est vrai ? Pourquoi l'auteur devrait-il perdre, ne serait-ce qu'un seul auditeur, fit Ivan dans un ricanement. Je te le raconte ou non ? Je suis tout oui, prononça Alyosha. Mon poème s'appelle « Le grand inquisiteur ». C'est une chose absurde, mais j'ai envie de te la faire connaître. Voilà, c'était la fin de cet épisode de Big Books. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et que dire à part cessez le feu, bordel de merde.